Que le Seigneur soit loué et remercié pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici, pour adorer, écouter la parole à nouveau, pénétrer plus profondément dans les mystères de Dieu, nous occuper de ce que Dieu a révélé, en être saisi, être plongé dans tout cela au point de ne plus être vu, mais que le Seigneur soit vu, qui nous a appelés, qui a pris soin de nous avec miséricorde. Nous l'avons entendu ici dans la parole d'introduction, la crainte du Seigneur est sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que le commencement. C'est là que cela commence. Et là où la crainte de Dieu ne commence pas du tout, cela ne commence pas du tout. Là, nous avons une imagination pieuse. Des imaginations religieuses et rien de plus. Ce n'est que là où la crainte de Dieu commence réellement, que Dieu commence avec nous, ni plus tôt, ni plus tard. Et nous vivons à une époque où la crainte de Dieu doit être écrite en majuscule, mais elle ne se trouve toujours pas. Les hommes ont perdu la crainte devant Dieu, devant sa parole, devant ses décisions, devant ses actions, devant tout. Ils suivent leur propre voie et pensent ainsi pouvoir subsister et tenir devant Dieu. Comme nous pouvons être reconnaissants au Seigneur d'avoir un reste. Des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas une haute opinion d'eux-mêmes, mais qui s'attachent au Seigneur avec tout ce qu'ils ont en eux et qui font confiance à sa grâce. Nous aurons donc le service divin de cet après-midi et nous entrerons peut-être davantage dans la prière. Vous savez ce qu'il en est. On peut entendre la parole de Dieu autant de fois que l'on veut, à moins qu'elle ne soit repassée dans nos cœurs et gardée dans la foi et la prière, sinon nous étions des auditeurs oublieux. La parole de Dieu doit être repassée dans nos cœurs, méditée et gardée. Elle ne peut pas être seulement entendue. Sinon, nous ressemblons à des gens qui se sont regardés dans le miroir et qui ne savent plus à quoi ils ressemblaient. Et c'est en vain que nous l'avons alors entendu. Au jour du Seigneur, beaucoup de gens l'ont connu, l'ont entendu, l'ont vu dans les rues, ont été présents quand il a purifié les lépreux, rendu la vue aux aveugles, ressuscité les morts. Ils le connaissaient dans la chair, mais ne l'ont pas reconnu dans sa divinité, dans ce qu'il avait à faire, mais sont passés à côté. Le monde, c'est ainsi que nous le lisons, n'était pas digne de tous ceux qui avaient porté la parole qu'il avait apportée. Et bien sûr, même quand le Seigneur lui-même est venu, c'est écrit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un fait divin. Le Seigneur n'est pas venu pour nous donner une apparence pieuse, une quelconque apparence religieuse, humble à l'extérieur. Il est venu pour nous donner l'amour, pour nous donner la vie éternelle et nous la donner en abondance, la vie divine. Il est venu pour faire de nous des enfants de Dieu. Nous allons méditer quelques paroles aujourd'hui. Commençons par l'évangile de Jean au chapitre 8. Ce sont des passages de l'Écriture qui nous sont familiers et pourtant nous sommes certains que Dieu parlera à travers eux. Du verset 37. Jean 8, verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de réception en vous. Arrêtons-nous ici sur ce sujet, sur ce verset, pardon. Je sais bien. Jean, chapitre 8, verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de réception en vous. C'est l'une des plus tristes constatations que le Seigneur lui-même ait pu faire. Abraham est de sa postérité, un homme selon le cœur de Dieu, un homme avec qui Dieu avait conclu l'alliance et qui à qui il a dit, « En toi seront bénies toutes les races de la terre. » Dieu était apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il avait établi l'alliance, fait les promesses, révélé son plan. Il est même appelé le Dieu d'Abraham. Il est appelé le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je l'ai déjà dit parfois, Dieu n'a jamais été appelé le Dieu des Allemands, le Dieu des Américains, le Dieu de l'Union soviétique, mais il a souvent été appelé le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé l'histoire du salut avec Abraham, a fait des promesses, a tenu ses promesses, a établi l'alliance, a été fidèle et s'est révélé à ceux avec qui il avait un chemin, une voie. Et comme nous l'avons déjà dit, a fait l'histoire du salut par avance. La raison pour laquelle il voulait tuer le Seigneur est donnée ici. Parce que ma parole ne trouve pas de réception en vous. Celui qui a été rempli de traditions, d'interprétations et de ce qui n'est pas en accord avec les paroles de Dieu n'aura plus de place pour la parole elle-même. Notre Seigneur se tenait autrefois devant le peuple, devant les scribes, et il dit, vous avez annulé la parole de Dieu à cause de vos traditions. La parole de Dieu doit d'abord être annulée avant que l'on puisse présenter ses propres choses comme valables. Mais là, où tout ce qui est propre est annulé, alors c'est là seulement que la parole de Dieu peut être présentée et reçue comme valable, comme ayant toute sa vigueur comme étant obligatoire. contraignante. Et c'est à ces personnes que nous voulons appartenir dans ce temps. Des gens chez qui toutes les traditions, toutes les coutumes qui ont pris place sont mises de côté et où la parole pourrait être placée à nouveau à la bonne place dans notre cœur, dans notre vie, dans l'église, dans chaque domaine comme Dieu l'avait prévu et envisagé lorsqu'il a donné sa parole. Ensuite, dans la lettre aux Éphésiens, lisons brièvement le verset 2 du chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 2. Vous avez sans doute entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été conférée pour vous. Verset 3. C'est que le mystère m'a été révélé, comme je l'ai écrit brièvement tout à l'heure. Verset 4. Par là, vous pouvez reconnaître, si vous le lisez, mon intimité avec le mystère du Christ. Verset 5. Qui, dans les âges précédents, n'a pas été révélé aux enfants des hommes comme il l'a été maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Jusqu'ici pour ce passage biblique. Il s'agit ici de la pensée, l'administration de la grâce de Dieu. Qui peut administrer correctement la grâce de Dieu? Qui peut administrer correctement ce qui est en rapport avec ceux qui ont reçu la grâce de Dieu? Paul, en tant qu'un homme de Dieu, appelé, placé, établi dans le ministère, était conscient de sa responsabilité devant Dieu et il s'attendait à ce que les croyants aient eu aussi entendu parler de cet appel divin, de cet envoi divin, de ce mandat divin, de cette responsabilité qu'il avait reçue. Et c'est pourquoi il écrit, vous avez bien entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu. Bien-aimés, si nous comparons dans ce temps le ministère de frère Branham à celui de Paul, nous ne le faisons pas par orgueil. Nous ne le faisons pas pour mettre en valeur un homme d'une manière particulière. Alors nous le faisons dans le respect, dans la crainte devant Dieu, en sachant que le Seigneur a pris des décisions et qu'il est descendu dans ce temps, à cette époque, dans la même colonne de nuée et de feu, les mêmes choses ont été faites, mais nous ne nous arrêtons pas là. Mais la même parole a été aussi annoncée. Vous direz peut-être, c'est allé bien au-delà. La première chose que nous devons comprendre, c'est que tout enseignement biblique, tel qu'il était au commencement, doit exister à la fin. Et nous croyons de tout cœur qu'il est nécessaire que tous restent, demeurent dans les limites, dans le cadre de la parole de Dieu pour pouvoir demeurer en Dieu. Il n'y a pas d'homme qui puisse demeurer en Dieu s'il ne demeure pas dans les limites de la parole. Au verset 7, si vous demeurez en moi, de Jean 15, a dit le Seigneur, et que mes paroles demeurent en vous. C'est ce que dit notre Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 15. La parole ne peut pas être séparée du Seigneur, mais elle forme une unité. C'est pourquoi nous croyons que Dieu est le Dieu de sa parole. Et si nous sommes peut-être temporairement considérés d'une certaine manière comme si nous n'étions plus dans la course. Non, nous ne sommes pas dans une course, surtout pas avec les hommes ou avec ce qu'ils font. Non, Dieu nous a placés dans une piste de course divine, non pas une course avec telle ou telle interprétation ou direction, mais une constance que Dieu lui-même nous a donnée pour demeurer dans sa parole, pour pouvoir aussi attendre, pour pouvoir prendre patience, car il est écrit ainsi, vous avez besoin de persévérance, de patience, afin qu'après l'accomplissement de la volonté divine, vous obteniez ce qui vous a été promis. Hébreux 10, verset 36. Cette patience de pouvoir attendre jusqu'à ce que le temps de Dieu et l'heure de Dieu ait sonné. Paul pouvait écrire dans son temps, vous avez bien, donc Éphésiens 3, verset 2, vous avez bien entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été conférée pour vous, non pour lui-même, non pour sa propre gloire, non pour qu'il puisse ensuite dire, oh, j'ai expérimenté cela, j'ai vécu cela. Non, chaque ministère, chaque tâche, tout ce que Dieu donne à l'Église, il ne le donne pas à l'individu pour lui-même, mais il le donne pour l'édification de l'Église. Donc, au verset 2, Éphésiens 3, vous avez bien entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été conférée pour vous. Verset 3, c'est que le mystère m'a été révélé comme je l'ai écrit brièvement tout à l'heure. Tout à l'heure. Arrêtons-nous un peu sur cette parole révélation. Aujourd'hui, on entend cette parole à maintes reprises. Permettez-moi de le dire clairement. Toute révélation venant de Dieu se fera par l'Esprit et la parole de Dieu. Jamais seulement que quelqu'un dise « j'ai eu une révélation par l'Esprit ». Il peut encore s'agir d'un esprit et d'un autre esprit. Mais la question et la réponse sont les suivantes. Toute révélation divine qui vraiment vient de l'Esprit de Dieu doit venir et viendra de la parole de Dieu et elle conduira à nouveau dans la parole de Dieu. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'y aura pas qu'un seul passage biblique que l'on pourra tordre dans tous les sens, mais comme un fil rouge, il se déroulera à travers les saintes écritures et nous n'aurons pas qu'un seul passage, mais plusieurs passages bibliques. Voyez, comme Dieu a été fidèle. N'a-t-il pas connu la fin avant le commencement? N'avons-nous pas décrit dans la parole de Dieu ce qui se passerait dans les derniers jours? Et puis, il donne quand même dans le dernier et dans le premier chapitre de l'Apocalypse cette exhortation à écrire ce qui a été dit. Cet avertissement à écrire ce qui a été dit. Et ce qui n'a pas été écrit, comme nous le savons tous, ne pourra jamais faire partie de la parole de Dieu et ne sera donc jamais prêché. Où et comment naît la confusion de nos jours dans le fait que les gens affirment que Dieu leur a révélé ceci ou cela. Et pour que la chose reçoive encore une étiquette religieuse, il faut alors utiliser les termes comme les sept tonnerres. Bien-aimés, croyez-le une fois pour toutes. Tout ce que Dieu voulait dire à l'Église épouse a été mis par écrit et révélé par le dernier ministère, celui de frère Branham. Tout ce qui va au-delà, vous pouvez l'oublier, car cela ne vient pas de la même source. Ce sont des interprétations, des ajouts, et tout ce qui en fait partie, mais jamais la parole originale de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit à l'époque, « Vous ne m'écoutez pas, parce que ma parole ne trouve pas de réception en vous. » Les personnes qui, de nos jours, ne laissent pas entrer la parole de Dieu en elles, donnent ainsi la preuve qu'elles ont absorbé des interprétations et qu'elles en sont pleines et que rien d'autre n'a plus de place. Peut-être quelqu'un dira-t-il, cela concerne les dénominations. Non, pas du tout. Cela concerne tout le monde, peu importe qui ou quand cela se produit. Tout homme qui reçoit en lui d'autres choses que la pure et sainte parole de Dieu en viendra un jour ouvertement à ne plus pouvoir accepter la parole de Dieu parce que tout ce qui est en lui aura perturbé le lien avec la parole. Nous devons avoir une relation ininterrompue avec Dieu. Si nous l'avons, alors nous avons une relation intacte avec sa parole. Et alors, c'est seulement comme ça que Dieu peut à nouveau avancer avec nous. Je pense qu'après tous ces va-et-vient, Dieu nous fera la grâce de nous affermir dans sa parole de telle sorte que personne ne puisse plus nous balloter, qu'aucun vent d'interprétation ne puisse nous atteindre à propos de ceci ou de cela, et que s'il nous atteignait, il ne pourrait pas nous emporter, mais que nous serions effectivement affermis et fondés dans la parole de Dieu. Nous avons encore une parole qui va dans ce sens. Elle est probablement écrite dans l'Épître aux Colossiens. Je veux juste voir, nous l'avons lu dans Éphésiens, Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, du verset 24. Verset 24, Colossiens 1, verset 24. « Maintenant je me réjouis des souffrances que je dois endurer pour vous. Et je complète en ma chair ce qui manque encore aux tribulations de Christ pour son corps, c'est-à-dire pour l'Église. » Verset 25. « Dont je suis devenu le serviteur par suite du ministère d'intendant qui m'a été confié par Dieu en ce qui vous concerne, afin de transmettre parfaitement la parole de Dieu. Arrêtons-nous un instant sur cette pensée. Encore ici, un ministère d'économe, d'intendant, un ministère qui lui a été confié par Dieu à votre égard, non pas pour lui-même, mais pour l'édification de l'Église. Paul, en tant qu'un homme de Dieu, était libre de tout dogmatisme, de tous ses sentiments de vouloir avoir raison. Avait-il besoin de se lancer dans la course? Avait-il besoin de parler de lui-même et pour lui-même? Non. Il a fait référence au mandat divin, à l'appel au ministère d'intendant que Dieu lui avait confié en vue de l'Église, du ministère d'économe. Tout homme de Dieu, désigné par le Seigneur, établi par lui, aura à cœur le bien absolu de l'Église. Il sera dans la même situation qu'Aaron et tous les autres. Le pectoral, avec les 12 tribus, était en effet sur son cœur chaque fois qu'il entrait en présence de Dieu. Dans le pectoral se trouvaient les 12 pierres, et les 12 pierres représentaient les 12 tribus. Il les portait sur son cœur pour exercer un ministère sacerdotal, non pas le dogmatisme, non pas vouloir avoir raison, savoir mieux les choses, non pas le fait de savoir mieux que les autres, mais la parole du Seigneur devait être proclamée pour que Dieu soit reconnu à sa juste valeur. Et Paul l'a si bien formulé ici, pour transmettre parfaitement la parole de Dieu, pas seulement en partie, mais pour parfaitement transmettre la parole de Dieu, afin qu'aucune des paroles de Dieu ne manque non plus, mais que tout, sur tous les sujets, soit parfaitement apporté. Et cela de manière parfaite, afin que l'Église puisse elle aussi être amenée à la perfection, c'est-à-dire en transmettant parfaitement la parole de Dieu. N'est-ce pas précisément de cela qu'il s'agit en ces jours? L'Église doit parvenir à la perfection. La restauration n'est pas seulement une théorie. Elle doit se manifester dans la pratique. Que Dieu a tourné sa face vers nous et que la parole de Dieu est parfaitement été transmise en tous ceux qui sont amenés à la perfection en Christ, afin qu'ils puissent être pris à sa rencontre. C'est essentiellement de cela qu'il s'agit maintenant. Et peut-être certains se demanderont-ils pourquoi ne nous créons pas ici une atmosphère artificielle. Croyez-moi, si j'ai bien compris le message, la parole de Dieu est la semence divine qui est déposée en nous. Et si j'ai bien compris, cette semence divine contient le germe de vie divine. Et si j'ai bien compris, l'Esprit de Dieu vient sur cette semence divine pour lui donner une nouvelle vie. Et c'est bien ainsi. Ce n'est donc pas les émotions, les sensations, vibrations, l'atmosphère et l'enthousiasme que nous provoquons. La semence n'est pas intéressée par l'enthousiasme qui l'entoure. La semence a le germe de la vie en elle. Et si Dieu a veillé à ce que cette graine, cette semence divine soit déposée en nous, ne veillera-t-il pas à ce que cette graine, cette semence divine se transforme en une nouvelle vie divine? C'est certain. Il s'agit en effet d'une loi de Dieu qui produira toutes choses selon son espèce. Et si Paul écrit ici en tant qu'homme de Dieu, qu'il a reçu de Dieu en vue de l'Église ce ministère, c'est-à-dire pour faire en sorte que la parole de Dieu soit parfaitement transmise. Nous avons bien compris que nos opinions et nos coutumes et traditions nous faisaient terriblement obstacle, qu'elles constituaient un obstacle. Et parfois, j'ai l'impression que toute la pâte acidifiée, tout le vieux levain n'a pas été balayé, qu'il en reste encore beaucoup, la pâte acidifiée. Et alors, la parole de Dieu s'accomplit très vite. Ne savez-vous pas qu'un peu de pâte acidifiée, un peu de levain gâte toute la pâte? 1 Corinthiens 5, verset 6. Nous devons comprendre qu'en ces jours, ce n'est pas un travail au coup par coup, à moitié, mais la parole parfaite de Dieu qui doit être transmise afin que l'Église puisse être placé dans cette perfection divine. Il doit y avoir une période où tout ce qui est fait en partie aboutit maintenant à cette perfection. Et c'est pourquoi Paul écrit, quand la perfection sera venue, quand ce qui est parfait sera venu, alors le travail en pièces cessera. 1 Corinthiens 13, verset 10, Certes, nous avons traversé une période. Beaucoup de choses ont été faites en tant qu'œuvre partielle, donc en partie, et nous sommes très reconnaissants pour tout ce travail en partie. Mais nous devons à présent nous préparer à détourner notre attention de l'œuvre partielle pour la porter maintenant sur ce qui est parfait. Et la parole de Dieu est parfaite. Tout ce que Dieu fait, il le fait selon sa parole, selon ses paroles. Et tous ceux qui ont été établis réellement par Dieu font également toutes choses selon ses paroles. Comme nous l'avons souligné ici, il est écrit au sujet de Noé, Genèse 6, verset 22. Il fit tout comme le Seigneur lui avait ordonné. De Moïse aussi, dans Nombre 40, 16 et dans Nombre 25, verset 40. Il fit tout tel que le Seigneur lui avait montré et ordonné sur la montagne sainte. D'Élie aussi dans 1 Roi 18, verset 36. Il fit tout comme Dieu le Seigneur lui avait dit. Paul pouvait dire la même chose à l'époque. Et nous croyons de tout cœur que l'appel et le ministère de Frère Branham étaient nécessaires pour communiquer à l'Église du Seigneur une onction pour ses yeux dans ces derniers jours pour révéler la volonté de Dieu et la faire sortir de ce qui est fait à moitié pour l'introduire dans ce qui est parfait, à savoir la parole de Dieu. Avez-vous déjà entendu Frère Branham se tenir devant une assemblée, exercer des dons, par exemple parler en d'autres langues et interpréter? Il aurait pu le faire. Il a pourtant clairement dit qu'il avait fait cette expérience avec Dieu. Frère Branham n'était pas envoyé pour jouer la comédie aux autres. Il a été envoyé pour transmettre pleinement, parfaitement la parole de Dieu. Et j'ai fait cette déclaration maintenant. Et si j'ai fait cette déclaration maintenant, je ne veux à aucun prix donner l'impression que les gens qui exercent des dons le font semblant. Mais les prédicateurs le font. Les prédicateurs le font avec calcul. Ils le font exprès pour donner aux autres l'impression qu'ils sont en règle avec Dieu. Et frère Branham n'a jamais eu besoin de le faire. Mais nous voyons que son ministère était quand même différent de tous les autres ministères. En effet, l'un des grands évangélistes est venu le voir et lui a demandé de pouvoir lui imposer les mains pour qu'il se remette d'aplomb, pour qu'il devienne normal. Et alors frère Branham a dit, si tu me permets de t'imposer aussi les mains, et alors je pourrais aussi te le permettre. Qu'est-ce que c'était? C'était une façon traditionnelle de tout faire d'une manière à laquelle les gens étaient habitués depuis des années. Dieu n'a pas envoyé son serviteur et prophète pour qu'il marche dans les traces usées des autres, mais il l'a envoyé pour apporter la parole, et cela d'une manière parfaite, afin qu'à la fin du temps de grâce, une église puisse être appelée à sortir, qui ne marchera pas dans les traces usées, mais sur le chemin clair dans les traces de Dieu. Et les traces de Dieu, on les trouve toujours dans ses paroles. Aujourd'hui, je suis reconnaissant à Dieu que frère Branham ait eu la grâce de résister à tout, et de ne jamais céder, mais de rester fidèle à l'appel, et comme nous l'avons lu ici, à ce ministère d'économe, d'administrateur, d'intendant, afin de transmettre parfaitement la parole de Dieu. Il savait que cette parole ne reviendrait pas à vide, sans effet, ne pourrait pas revenir sans effet à Dieu, mais que là où elle est déposée dans les cœurs, là où elle est frappée par le rayon de lumière du soleil de la justice, c'est là qu'elle sort et qu'elle est en effet irriguée par l'Esprit de Dieu, abreuvée par l'Esprit de Dieu. Maintenant, écoutez, cela va encore plus loin. Maintenant, le verset 26 de Colossiens 1, c'est-à-dire le mystère qui, depuis qu'il y a des siècles et des générations, a été caché, mais qui maintenant a été révélé à ses saints. Colossiens 1, verset 26. Nous allons maintenant aborder un autre point sur lequel nous aimerions insister. Il s'agit ici de ce seul mystère qui a été caché en Dieu, de ce seul mystère qui a été caché en Dieu, révélé en Christ, manifesté à ses saints, prophètes et apôtres, et ainsi rendu accessible à l'Église, afin que nous soyons éclairés sur le conseil divin. Mais maintenant que cela est fait, écoutez, quelle doit être la somme de cette révélation divine de la parole. Verset 27. Car c'est à eux que Dieu a voulu faire connaître la richesse de la gloire que ce mystère renferme parmi les peuples païens. Cette richesse consiste en ce que Christ est en vous comme l'espérance de la gloire. Remarquez-vous de quoi il s'agit? Cela vient de Christ et mène à Christ. Cette richesse ne consiste pas en ceci, je sais cela, et encore plus, et je sais encore cela, et je sais encore plus, et encore cela, et bien plus encore. Non, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de personnes qui savent tout. Dieu a besoin d'hommes qui ne peuvent pas énumérer tout ce qu'ils savent, sur combien de points ils savent tout mieux. Dieu a besoin d'hommes qui comprennent de quoi il s'agit, à savoir que dans notre âme, Christ, le mystère la gloire de Dieu, qu'il puisse, lui, se manifester. À quoi sert tout notre savoir si Christ n'est pas reconnu à sa juste valeur en toi et en moi? Ne reçois pas ce qui lui revient de plein droit en toi et en moi. Dans ce cas, un message divin aurait été apporté et donné en vain. Non, il est très important que nous le reconnaissions. Il s'agit qu'il puisse habiter en nous et être en nous. Permettez-moi de résumer ces deux versets, à savoir le verset « Pour que la parole de Dieu soit transmise parfaitement. » Ensuite, ce verset « Cette richesse consiste en ce que Christ est en vous comme l'espérance de la gloire. » Là où la parole de Dieu est parfaitement transmise dans le peuple de Dieu, donc, c'est-à-dire apportée. Alors, c'est là que Dieu a la possibilité, par sa parole, d'exécuter ce pourquoi il a envoyé sa parole. Et que reste-t-il en dernier lieu? Que Christ en nous soit l'espérance de la gloire. Christ, le mystère de Dieu révélé. Et ceci, même la, ici même la liaison de cette parole est écrite. Verset 27. Car c'est à eux que Dieu a voulu faire connaître quelle plénitude de gloire ce mystère renferme parmi les peuples païens. Quelle richesse de gloire ce mystère renferme parmi les peuples païens. Cette richesse consiste en ce que Christ est en vous comme l'espérance de la gloire. Beaucoup ont prétendu avoir Christ. Avaient-ils la parole? Ont-ils reçu la semence divine? Ont-ils été affranchis et délivrés de toute tradition et coutume? La pure semence divine a-t-elle été semée en eux pour qu'une pure moisson divine puisse en sortir? Nous en avons parlé. Dans les temps passés, il y a eu un mélange à tout égard, un mélange dans tous les domaines. Mais cela doit cesser. Notre Seigneur veut que sa parole, et seulement sa parole, puisse être parfaitement transmise pour que son peuple puisse être conduit vers la perfection. Donc, pour la perfection de son peuple en ces derniers jours, c'est dans ce but que la révélation parfaite de la volonté et de la parole de Dieu a été donnée. Afin que quelque chose de parfait puisse sortir de ce qui est parfait dans l'Église. Nous savons, frère Branham l'a dit assez clairement, de Dieu ne pouvait sortir que Dieu, comme d'un homme ne peut sortir qu'un homme. Chaque chose produit selon son espèce. Et ainsi Dieu a dit, ceci est mon Fils bien-aimé, aujourd'hui je l'ai engendré. Qu'est-ce que c'était? Dieu s'est révélé. Et pour rester sur cette parole, si maintenant, dans les derniers jours, cette parole de Dieu doit être parfaitement transmise, apportée, alors comprenons que Dieu a révélé sa parole de manière parfaite. S'il y a des ambiguïtés, elles ne sont pas dans la parole, elles sont en toi en raison de la tradition et des coutumes et des traditions traditionnelles. Mais là où toutes ces choses ont pu être éliminées, là le Seigneur, je le crois, pourra parfaitement exécuter sa parole et sa volonté en nous dans ces derniers jours. Question. Une parole parfaite peut-elle produire autre chose que quelque chose de parfait dans ceux qui l'ont reçu? la parole de Dieu peut-elle produire autre chose que ce qui y est écrit comme semence? Jamais, au grand jamais. La parole de Dieu, toute parole de Dieu est une semence. Et dans la mesure où cette parole de Dieu est déposée en tant que semence dans le cœur des croyants, sous la forme d'une promesse divine, alors rien d'autre ne peut sortir que ce que Dieu a annoncé par sa parole et qui est déjà présent en germe en tant que semence. Cela sortira. Et les fils et les filles de Dieu seront manifestés à la fin du temps de grâce. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais quand il le sera, nous serons semblables à lui. Lui, en tant que fils de Dieu, engendré par l'Esprit, la parole s'est faite chair. Donc nous aussi, fils, en tant que fils et filles de Dieu, engendrés par l'Esprit, la parole de la promesse divine doit être en nous pour que quelque chose de divin puisse en sortir. Je ne sais pas si cela a été dit assez clairement, mais le Saint-Esprit est capable de le rendre encore plus clair, de sorte qu'il ne resterait en aucun de nous la moindre incrédulité ou le moindre doute. Faisons-nous confiance à Dieu. Il y avait une promesse pour le Rédempteur. Elle s'est réalisée. Il y a une promesse pour les rachetés. Elle doit s'accomplir. Et nous sommes au cœur de ce que Dieu fait à la fin des temps. Au cœur de ce que le Seigneur, qui a donné sa parole parfaite, va lentement et sûrement mettre en place de manière parfaite ces choses. Et les exécuter. Je relis volontiers ce verset 25, pour annoncer parfaitement la parole de Dieu, non pas pour son opinion ou pour sa doctrine, pour sa connaissance particulière, mais pour annoncer, pour transmettre parfaitement la parole de Dieu. Verset 25. Je n'ai pas d'autre souhait que celui-ci, que Dieu, en ces derniers jours, se mettre, donc reçoive ce qui lui revient de plein droit, de manière à ce que sa parole puisse vraiment être apportée parfaitement, transmise et parfaitement. Et puis, je vais vous faire une confidence. Aucun de ceux qui ont reçu la parole de Dieu dans la foi ne seront dans des manquements. Personne. Il y a en effet des gens qui courent ici, qui courent là, qui entendent ici, qui entendent là, qui écoutent ceci, quelque chose ici et là. Il y a quelque chose de nouveau ici et là. Et ils se connectent et ils veulent écouter. Et il semble qu'ils aient des ailes à ce moment-là. Mais ensuite, tous les pneus se dégonflent et la nouvelle chose n'attire plus. Il y a de nouveau quelque chose d'autre, n'est-ce pas? De nouveau. Ô peuple de Dieu, frères et sœurs, nous devrions être honteux de toutes les choses qui sont faites par les hommes, par le jeu trompeur de l'ennemi en ces jours. Croyons de tout cœur que Dieu a révélé sa parole parfaite et donc sa volonté parfaite et que ce même Dieu veille sur ses paroles pour les accomplir parfaitement et en faire une réalité dans ceux qui les ont reçus dans leur cœur par la foi. le résultat global de la parole parfaite de Dieu sera alors Christ, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ici, il est même écrit ainsi, verset 27, « Car c'est à eux que Dieu a voulu faire connaître quelle plénitude de gloire ce mystère renferme parmi les peuples païens. Quelle plénitude de gloire. D'où vient la gloire de celui qui nous l'a attribuée. Elle vient de notre Dieu. Où voyons-nous aujourd'hui cette plénitude de la gloire de Dieu? Où voyons-nous aujourd'hui cette plénitude de la gloire de Dieu? N'y a-t-il pas partout des querelles, des disputes, des conflits, des querelles, de personnes, des dissensions, des divisions? Où est cette gloire? Mais Dieu aura une église dans laquelle sa parole parfaite sera entendue et crue, dans laquelle sa parole parfaite accomplira ensuite ce pourquoi elle nous a été envoyée. Et alors, la plénitude de la gloire de Dieu sera manifestée parmi son peuple. Le résultat, ce sera Christ en vous. Cette plénitude de Dieu rendue manifeste et qui nous est donnée. Et quand quelqu'un reçoit ainsi la plénitude, cela déborde. Et ce qui remplit le cœur, la bouche en est remplie. Matthieu 12, 34. Que le Seigneur nous bénisse pour ces paroles, pour que nous les saisissions dans la foi et que nous fassions confiance à notre Dieu pour qu'il accomplisse tout par grâce en nous et en tous ceux qui y croient de tout leur cœur comme il l'a promis et comme il s'y est engagé. Ce n'est pas à nous que cette tâche a été confiée. Non, c'est lui-même, lui qui a racheté son église, c'est lui qui l'a bâti, c'est lui qui l'achève, c'est lui qui la ramènera qui la prendra auprès de lui dans sa gloire. Comme notre Dieu est merveilleux, comme il est fidèle. Je ne veux vraiment rien présumer, mais je veux exprimer le souhait de mon cœur. Je voudrais que ce que Paul désirait ardemment et ce que frère Branham aurait déjà aimé voir puisse être vécu à la fin des jours comme fruit de ce message divin de manière parfaite par grâce. Celui afin que ou bien alors, celui d'une révélation parfaite, de la parole parfaite de Dieu, d'une rédemption parfaite, d'une délivrance parfaite, d'un salut parfait, d'un baptême parfait, du Saint-Esprit, d'un amour parfait, d'un enseignement parfait, tout cela par la grâce de Dieu qui existait en tant que chose en partie, à l'état de pièce détachée, aboutit à cette perfection divine. Et je le crois. Et ce faisant, je ne regarde pas vers moi, mais vers le Seigneur. Et si nous regardons vers lui, alors nous pouvons le croire. Est-ce vrai ou non? Si nous regardons à nous-mêmes, oh, nous pourrions nous décourager. Mais si nous regardons le Seigneur à lui, alors nous avons bon courage, même dans notre découragement. Loué soit le nom du Seigneur. La parole de Dieu porte en elle la vie divine, le jamais là. Et le Seigneur veillera lui-même à ce que ce germe jaillisse, sorte, et il y aura une telle abondance. Alléluia! Gloire à Dieu! Une telle abondance digne de notre Seigneur et Dieu. Ce sera une plénitude parfaite. Rien ne manquera. Une restauration parfaite de tout une restitution de tout ce qui a été perdu. N'en êtes-vous pas heureux? Oh, qui sommes-nous pour que Dieu nous ait révélé sa parole, comme aux apôtres et aux prophètes, comme aux apôtres et aux prophètes. Loué soit son saint nom. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, je te remercie du fond du cœur de nous avoir parlé. Certes, c'est une terre sainte sur laquelle nous nous tenons. Mais c'est à cause de toi, parce que tu es présent en tant que saint. Fidèle Seigneur, j'ai compris aujourd'hui pourquoi Paul disait ce qu'il disait et pourquoi frère Branham agissait comme il agissait. Seigneur, ces hommes étaient envoyés par toi et destinés à faire ce que tous les autres ne pouvaient pas faire parce qu'ils n'avaient pas été désignés pour cela. Chacun pouvait exercer des dons. Chacun pouvait accomplir un ministère. Mais tu as confié ta parole à ceux qui étaient spécialement appelés à cela et ils ne se sont pas occupés d'exercer des dons. C'est pourquoi Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'assemblée, j'aime mieux dire des paroles d'instruction et de connaissance que plusieurs milliers de paroles en langue. Aujourd'hui, je comprends. Même frère Branham n'a pas exercé une seule fois ce don. Seigneur, sans le savoir, tu m'as conduit de la même manière. Jamais je ne me suis présenté devant ton peuple pour être quelque chose. Et bien que tu m'aies baptisé d'esprit et de feu en 1951 et que j'ai souvent utilisé ce don pour te parler, je me suis présenté devant le peuple avec ta parole. Seigneur, je te remercie. Je loue ton nom. C'est aussi la raison pour laquelle tu t'es adressé à moi, au Seigneur, en m'appelant mon Knecht, mon serviteur. Seigneur, je te remercie de nous faire prendre conscience des choses à la fin des temps. Inconsciemment, voire sans que nous en soyons conscients, tu nous as déjà conduits pas et guidés pas à pas. Seigneur, je te remercie. Je veux subsister devant toi le jour, dans ce jour-là que tu feras avec tous ceux qui ont entendu la parole. Seigneur, c'est une parole parfaite, sans effort personnel, tu la feras jaillir en perfection pour la gloire et la louange de ton nom. Nous te remercions ensemble pour tout le travail accompli en partie au cours des années et des temps passés, pour toutes tes paroles, pour tous tes dons. Oh, combien de fois tu nous as bénis, fidèle Seigneur, je te remercie sincèrement. Dirige-nous maintenant vers la perfection, Oh, que ta parole soit parfaitement transmise, apportée, Seigneur, afin que rien n'y manque. Fais-nous comprendre que ce n'est pas l'heure des choses apportées en partie. C'est l'heure de la parole, l'heure de la vérité, l'heure de la décision, l'heure de Dieu pour son peuple. Je te remercie, je te loue et je t'adore, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, toi qui es et toi qui viens, ton peuple qui est faible, a reçu et accueilli ta parole parfaite dans la foi. Que ta parole divine surgisse et apporte la plénitude de la gloire et manifeste Jésus-Christ comme l'espérance de la gloire en nous tous et par nous tous. Seigneur fidèle, puisse-t-il être mis fin une fois pour toutes à toutes nos propres coutumes, nos propres traditions, afin que nous puissions recevoir ta seule parole et que ton esprit puisse la rendre vivante. Seigneur, je te remercie de nous prendre, de nous bénir tous de la richesse de ta grâce. Tu es présent. Chacun le sait dans cette salle. Tu nous as parlé. Cela aussi, nous l'avons compris. Sauveur bien-aimé, prends-nous tous et bénis-nous en ta présence, avec ta présence. Seigneur, que ton esprit règne sur nous. Qu'il vienne en nous et qu'il fasse vivre ta parole à la gloire et à la louange de ton nom. Alléluia. Amen.